Bon, on reçoit évidemment toujours une tonne d'avis d'experts, mais là, les gens commencent à s'interroger. Il y a eu d'abord le port du masque. Au début, on nous a dit non, c'est pas nécessaire. Là, il est rendu partout. Après ça, je vais prendre l'autre exemple, celui de la ventilation, où on s'est fait dire à travers le monde, oui, il faut ventiler puis purifier l'air. Puis là, vendredi, on a nos experts de santé publique qui disent que finalement, c'est pas nécessaire. Alors, qui on va croire?
Écoute, en tout cas, moi, je croirais plus le ministre de l'Éducation. C'est la passe qu'il a faite sur la communication sur la ventilation vendredi. J'en ai été victime parce que j'ai pris ça en note. Puis je dis, ah bon, OK, c'est correct. Je me suis trompé. J'ai tout le temps pensé que la ventilation, c'était super important. Le rapport sort, puis il dit, non, finalement, il y a très, très peu d'écoles. Sur les 300 écoles qui ont été testées, il y a très, très peu d'écoles où la ventilation pose problème.
3%.
Sauf qu'après, on apprend que les fenêtres avaient été ouvertes 20 minutes avant de faire les tests. Première information. Et deuxième information, là où on n'avait pas pu ouvrir les fenêtres, on a laissé de côté les résultats. Donc, il y a 100 écoles où on n'a pas pris en considération les résultats parce qu'on n'avait pas pu ouvrir les fenêtres. Hey! Là, ça, c'est une communication tordue, là. Je veux dire, qu'on nous dise... je pense que je comprends ce qu'il y avait en arrière-plan, en tête, en idée, c'est de dire, bon, si on ouvre on met une directive d'ouvrir les fenêtres avant les cours, puis de les ouvrir après les cours, il n'y aura pas de problème. Mais ça, c'est une façon de dire les choses. Mais de dire qu'il n'y a pas de problème d'aération, ça, c'en est une autre. Et parce que là, on a l'impression qu'il n'y a pas de problème. Et il y a des gens qui n'ouvriront pas les fenêtres. Puis d'ailleurs, ouvrir les fenêtres, ce n'est pas possible dans le tiers des cas qui ont été testés. Alors, c'est une communication tordue. Ce n'est pas un avis d'expert. C'est la façon de communiquer.
Lui, il prétend qu'il n'y a pas rien de télécommandé ou de complaisant. Parce que j'ai posé la question ce matin, parce que je trouvais ça aussi... Space.
Ben, permettez-nous d'en douter, là, parce qu'honnêement, moi, quand j'ai vu la statistique, 97 % des écoles sont bien ventilées.
Puis tu rentres là-dedans, pardon, ça sent tout le temps les sandwichs. Comment est-ce que tu peux expliquer ça?
Beaucoup de gens nous disent que les conduits de ventilation dans les écoles ne sont pas nettoyés. Deuxièmement, j'ai un ami qui est professeur dans une école secondaire à Toronto. Les fameux purificateurs d'air, il m'a dit, on en a installé un dans ma classe de 30 élèves. Ça marche, ça fait pas de bruit, ça fait la job. Alors, tu dis à un moment donné, attends une minute, là, il y a quelque chose qui ne va pas. L'autre chose, tu parles de communication tordue sur le plan gouvernemental. Ce n'était pas au ministre de l'Éducation à faire la job qu'il a fait. C'est-à-dire que le rapport sur les aérosols de l'Institut national de la santé publique, ça aurait été aux gens de l'INSPQ, avec le docteur Arruda, de faire une conférence de presse et de nous l'expliquer. Pourquoi? Parce que l'enjeu des aérosols en soi, c'est un méga enjeu. Il y a 400 experts qui sont sortis la semaine passée, qui depuis septembre dernier s'époumonnent à dire que c'est super important en termes de vecteurs de transmission. Puis là, on nous dit à l'INSPQ, oui, c'est important, mais finalement, c'est peut-être pas si important qu'on le pense. Alors, à la question « qui croire? », bien, c'est effectivement pas évident. Je ne prête pas de mauvaises intentions au ministre de l'Éducation. Par contre, il a perdu beaucoup de sa crédibilité parce qu'il y a bien des parents aujourd'hui qui se disent, ben voyons donc, écoute, ça n'a aucun sens que 97 % des écoles sont bien ventilées, sachant tout ce qu'on sait. Pourquoi c'est si compliqué au Québec installer un purificateur d'air ou même faire le ménage dans nos conduits de ventilation dans nos écoles? Bureaucratie par-dessus bureaucratie, rapport par-dessus rapport. Quel type de purificateur on va acheter? Quelle capacité?
Et là, t'en installes dans les écoles anglophones parce que les écoles anglophones ont décidé de le faire, puis dans les écoles privées.
Exactement.
Ce qu'il aurait fallu faire, c'est donner la liberté au directeur d'école de dire, trouver des moyens du bord s'il le faut. Je l'ai répété à plusieurs reprises. En Allemagne, tu vois les photos d'aération dans les classes. Ils ont pris des tuyaux de plastique souple. Ils ont fait sortir ça dehors avec un ventilateur qui pousse l'air à l'intérieur. That's it. C'est mieux que rien. Ouvrir la fenêtre, c'est mieux que rien. Mais là, ça nous prend une directive du ministre. Puis la directive du ministre est communiquée en sorte qu'elle donne une information biaisée. Alors, effectivement, il y a un problème de communication, de bureaucratie, d'attitude qui moi, m'attriste parce que l'information technique, elle est juste.
Oui, mais moi, je te pose une question, Luc. Tu sais, le gouvernement de François Legault a lancé une vaste réforme de la gouvernance scolaire. On a remplacé les commissions scolaires par des centres scolaire.
Centre de service.
Des centres de service scolaire. Tout ça pour améliorer la gouvernance. Fait que là, tu dis, wow. Tu dis, écoute, il va y avoir plus de latitude sur le terrain pour les directeurs d'école. On va pouvoir faire les choses plus rapidement. Ben non. On se rend compte qu'on patauge encore dans la même salade.
Ouais, c'est ça.
Et puis une directive pour une directive. Puis là, le drame dans tout ça, c'est que l'INSPQ, l'Institut national de santé publique, s'entend pas tout le temps avec la direction de la santé publique, puis se mêle de ça le politique. Alors, enfin, bref, tout ça pour dire que c'est pas simple, mais dans le dossier de la ventilation en particulier, c'est comme le dossier, il y a encore beaucoup de questions sans réponse, c'est comme le dossier de la vaccination puis la fameuse seconde dose.
Mais parlons, veux-tu embarquer là-dessus?
Oui, mais en fait, c'est qui croire? La semaine dernière, moi, ici au micro, j'ai parlé au docteur Alex Carignan, qui est sur le comité de vaccination, qui nous dit, compte tenu du fardeau de la maladie, hein, compte tenu qu'il y a des vaccins disponibles, bien, le 31 décembre dernier, ils ont décidé de distribuer la deuxième dose sans attendre les résultats des directives de Pfizer. Bon, ben aujourd'hui, il y a beaucoup de gens au Québec qui se demandent, mais ça va avoir quoi comme impact? Parce que l'OMS dit, l'Organisation mondiale de la santé, oui, vous pouvez peut-être déroger à la directive de Pfizer, mais dans certains cas particuliers, mais pas plus que 6 semaines. Mm-hmm. Il y a des gens qui ont été vaccinés au Québec le 14 décembre. Ils vont recevoir leur prochaine dose quand? Dans 3 mois? Dans 2 mois? Alors, tu sais, est-ce qu'en bout de ligne, on va se réveiller en se disant un matin, on a tout fait ça pour rien? Mm-hmm. C'est vraiment pas simple à départager.
Ben moi, en tout cas, au début, j'étais alerté par le gouvernement, par Ottawa, qui dit on devrait respecter les directives de Pfizer, puis on met à risque la santé des personnes, l'efficacité du vaccin en reportant la deuxième dose. Puis en lisant un peu plus, je me suis dit, ben là encore, il y a peut-être un problème de communication. Premièrement, on n'est pas les seuls à le faire. L'Angleterre, le Danemark et plusieurs provinces canadiennes ont pris la même décision que nous.
Biden aux États-Unis.
Ah bon, tiens, bon, vois-tu, là, ça règle le problème. Merci, bonsoir.
Disons que
merci, quand même. Oui, là, la conseillère médicale à la santé publique du Canada qui nous dit peut-être qu'ils nous livreront plus de vaccins si on ne respecte pas les directives, mais calme-toi. Je dis, c'est le monde entier qui est en train de prendre la même décision que nous. Tu es en train de dire, nous autres, ils ne nous livreront pas de médecins. Ça, c'est une communication inutilement alarmiste. Et la décision, il faut la comprendre, elle me semble pas mauvaise sur le fond.
Oui, elle est défendable.
Ben, regarde, ils ont mesuré l'efficacité. Le Moderna, même avec une première dose, atteint 90 %. Oui. Le Pfizer, avec une première dose, atteint 50 %. Et on se dit, dépasse 50 %. Et on se dit, si on retarde un peu la deuxième dose, on va être capable de donner la deuxième dose à des gens qui travaillent en soins de santé immédiatement. Et donc, ralentir de 30 à 40 % la contamination. Ben, bingo, tout le monde aurait pris cette décision-là.
On y va. Parce que l'enjeu de la vaccination, c'est un enjeu hautement stratégique. C'est très simple, le calcul. Plus tu vaccines de monde, plus tu protèges les gens de la maladie, puis plus tu réduis le nombre de décès, d'hospitalisations, il y a un effet domino important. Mais rappelez-vous ce qu'on nous dit depuis le début de la pandémie, il faut faire confiance à la science. Quand les experts ne s'entendent pas,
ouais.
Quand tu es un citoyen, tu regardes ça, tu fais comme « Oh my God ». Alors, il faut, je pense, honnêtement,
mais rappelons-nous
comme citoyen,
de l'épisode des masques.
Oui,
on disait
oui,
aux gens, c'est pas obligatoire, c'est pas recommandé.
Oui.
Suggéré, mais pas plus que ça.
Ouais.
La vraie raison, c'est parce qu'on n'avait pas.
Ben oui,
exactement.
C'était pas une raison de santé publique, là.
Tout à fait.
Essayer de nous faire croire que la science a évolué sur les masques en l'espace d'une demi-heure, là.
Non. Mais ça, Luc Paul, ce qui est un peu embêtant avec ce genre d'exemple-là, c'est que à la fin de l'exercice, si tu communiques de façon maladroite, tu mets en doute la crédibilité de tes décisions et tu fais en sorte que les gens finissent par décrocher. Alors, le masque, c'est un exemple patent. Bon, la vaccination, on a encore confiance en la capacité du gouvernement d'atteindre l'objectif de l'immunité quelque part en septembre. C'est ça qui est visé. Dans le cas de la vaccination, il y a 2 grands défis, selon moi, c'est savoir conjuguer efficacité et rapidité. Là, on a quoi? Utilisé 73 % de nos doses, nous dit le premier ministre François Legault. Alors, bingo! Là, on semble être plus efficace. Maintenant, le défi, c'est d'être plus rapide.
Mm-hmm.
Pour ça, ça prend plus de doses. Et puis, il faut mettre en place des infrastructures sur le plan logistique qui nous permettent de vacciner le plus de monde possible.
Puis moi, j'aimerais ramener un autre point. Israël. Israël, qui était considéré, oh mon Dieu, qu'ils font bien des choses, puis quand
ils ont été.
Hein? Ils ont juste payé plus cher.
Juste 40 % de plus.
Ah ouais, gardons ça, toi. Aussi, ils partagent leurs résultats avec Pfizer sur ils ont rendu tous les résultats disponibles. Mais au début, c'est, oh mon Dieu, qu'ils font bien ça, les Israéliens. Puis là, ils ont même interviewé les gens du système de santé israélien. Oui, mais nous, on a l'habitude, puis etc., etc. Hey, ça me rappelle le coup des masques où le Canada avait acheté par catalogue les masques en Chine, puis se sont fait prendre sur les tarmacs par les Américains, puis là, se sont révélés. Et là, surprise, Ottawa en fin de semaine qui dit, ben nous aussi, on est prêt à payer plus cher. Trop tard!
Puis là, ce matin, dans la presse, on nous dit, il y a un masque qui existe,
oui,
fait au Québec,
ah oui,
approuvé par Santé Canada, mais il y a quelqu'un à la CNESST.
Il y a un fonctionnaire.
Absolument. Bon. Non, mais ça, c'est épouvantable. Ça, c'en est un exemple. Là. Écoute, il y a des Québécois qui ont investi plusieurs millions. Le ministre de l'Économie a même subventionné la démarche pour créer un masque plus efficace que ton N95 que tu portes, mon cher Luc. Hein? Et là, tu dis, écoute, une personne qui fout le bordel dans patente. Moi, j'espère qu'après l'article publié dans la presse par Yves Boisvert, que le gouvernement va mettre le poing sur la table et dire, regarde, ça va faire. Là. C'est comme on veut l'approuver, le masque, puis passer à notre appel.
Je suis pas sûr qu'il va pouvoir le faire parce que lorsqu'un professionnel signe un document en disant qu'il donne son avis d'expert sur une situation, c'est difficile. Souvent, on va exiger que le même professionnel change sa décision. Parce que c'est trop facile de prendre le professionnel puis de le mettre au garde-robe.
Luc, dans un contexte d'urgence pandémique,
oui, voilà, oui,
hein,
voilà,
je pense que là, d'accord, on peut presque tout faire.
Oui.
Mais ce que ça démontre, l'enjeu des experts, c'est que c'est au gouvernement en bout de ligne, hein, c'est au gouvernement en bout de ligne à nous démontrer quel fardeau de la preuve, quelle est la mesure la plus adéquate. C'est pour ça que François Legault nous parle souvent de la balance des inconvénients.
Hey, Nathalie.
Oui.
Ça s'est bien passé.
Oui, ça s'est.
Est-ce que vous revenez
notre
demain?
Première...
On revient demain. OK, enfin, moi, je reviens en tout cas.
Avec plaisir.
À suivre demain. Merci. On arrive à 9 h avec tout ça. Et un véhicule en panne sur la 13.